Merci. J'espère que je ne vais pas gâcher la fête. J'ai peur d'être un peu rabat-joie. On est en période de vacances. Et pendant les vacances, souvent, on fait un peu les révisions. Les enfants, ils ont des cahiers de vacances. Donc ce matin, je ne pense pas vous apprendre quelque chose de nouveau, mais peut-être un peu de révision. Et je pensais, quand tu parlais du fils prodigue, et Jean-Paul l'a dit aussi dans sa prière, que le fils prodigue, c'est pas toujours être parti pour faire des choses extraordinaires de folie, mais c'est simplement des fois s'éloigner un peu. Et c'était un peu de ça peut-être qu'on voudrait parler ce matin. Prions. Père éternel, qui suis-je pour apporter ta parole ? Je suis faible et tremblant. Ô Dieu Tout-Puissant, par le nom de Jésus-Christ, je te prie de me préserver de l'orgueil. Secours-moi par la puissance de ton esprit et que par ta parole, tu touches toi-même chaque cœur et chaque âme ici ce matin. Seigneur, je te prie également que tout ce qui sortira de ma bouche ce matin, qui n'est pas de toi, soit emporté par le vent. Par ton nom précieux de Jésus. Amen. Qu'est-ce que la parole ? Je prends la parole, je vous donne la parole. Bon, vous me la rendez, je la reprends. Josué 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage ? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Et dans Néhémie 2, verset 17, les textes que nous avons lus dans les mois précédents, je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Et un peu plus loin, au verset 20, après que l'ennemi se soit moqué d'eux, je leur ai fait cette réponse, dit Néhémie, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès, et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Prêcher, annoncer la parole, c'est la raison de ma présence devant vous. Entrer dans nos cœurs, c'est la raison pour laquelle la parole a été faite chair. Jésus est la parole et veut entrer dans nos cœurs. Vous connaissez ce chant, toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte, c'est Jésus qui voudrait une place, c'est Jésus qui voudrait toute la place. Ce chant, il me parle parce qu'à 9 ans, il m'a parlé à mon cœur d'enfant et j'ai compris à ce moment-là, qui voulait entrer dans mon cœur. Et tout est parti de là. Mais on pense bien souvent que le jour où on a pris cette décision de laisser Jésus entrer, tout est résolu une fois pour toutes. Pourtant, on en est à ce moment-là, à ce moment précis, seulement à la table des matières. Si on en reste là, et même si on lit les têtes de chapitre, nous ne serons jamais la véritable histoire complète. Et malheureusement, on peut, des années après, s'apercevoir qu'en fait, on en est encore là. Je sais de quoi je parle. Si nous voulons lire un livre ou une biographie, nous ne connaîtrons pas vraiment le personnage en restant à la table des matières. Peut-être, me direz-vous, quelqu'un qui a lu l'histoire peut me la raconter. Mais celui-là nous racontera l'histoire comme il l'a interprétée lui-même, en fonction de ce qu'il a touché, et il ne nous donnera pas les détails qui lui semblent, il nous donnera pas des détails qui lui semblent inutiles, mais qui pour nous seraient utiles. Et même si nous sommes devant les meilleurs conteurs, nous n'aurons jamais la connaissance de l'histoire complète, ni donc la compréhension totale. Et par le fait que nous aurons plusieurs conteurs, nous aurons plusieurs versions de l'histoire. On fait un jeu parfois dans ce sens. Essayez, vous verrez, c'est amusant, comme l'histoire, après plusieurs intermédiaires, est différente de l'original. Même si nous avons accès aux meilleurs prédicateurs, et même si nous venons à tous les cultes que nous allons, à toutes les études que nous cherchons à connaître l'histoire dans d'autres livres ou sur Internet, et même si tous ces moyens sont d'une extrême importance, entendons-nous bien et soyons-y attachés avec persévérance. Mais même avec tous ces moyens, si nous pensons pouvoir faire l'économie de la lecture du livre, nous n'en aurons jamais la révélation complète. Et nous risquons même d'en avoir une totalement tronquée. C'est ce qui s'est passé au fil des siècles. Avant que l'imprimerie existe, la Bible était devenue l'apanage de l'élite, des prêtres. Beaucoup ne savaient pas lire. Elle était rare et en latin. Et ils ont raconté l'histoire à leur façon. Et tous ceux qui écoutaient n'en ont eu qu'une révélation partielle, interprétée, tronquée. Et leur connaissance de celui que la Bible contient en est même souvent devenue superstition et peur plutôt que grâce et rédemption. C'est contre cela en priorité que se sont levés les réformateurs, faisant leur bannière de cette tellement importante réalité, on nous l'a rappelé dernièrement, sola scriptura, la parole seule, et ainsi redécouvrir le salut par la grâce. Et avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, que Dieu dans sa sagesse a fait coïncider à cette période, et de la traduction dans les langues du peuple, on a pu dire une Bible dans chaque cabane, tous prêtres, soit pas de filtre entre la parole et nos esprits, et prêcher l'importance que chacun puisse connaître toute l'histoire, la révélation dans sa totalité. Malgré tous les moyens et les dons que Dieu donne à l'Église, et elle doit avec ferveur les mettre en œuvre, comme le dit Éphésiens 4, verset 11, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour que cela soit une réalité, chacun doit également lire et creuser le livre par et pour lui-même. Mais encore, la lecture seule n'est pas suffisante. Nous n'aurons pas, par cette seule lecture, la compréhension, la révélation de celui que le livre contient, car si nous en restons là, nous aurons connaissance de l'histoire, nous saurons beaucoup de choses sur celui que le livre nous dit, mais nous ne le connaîtrons pas lui, nous ne saurons que des choses sur lui et de lui. Il est indispensable de comprendre que deux autres points sont indissociables de la lecture, pour ne pas être happé sournoisement par une connaissance orgueilleuse et détaché du centre, tout comme les pharisiens que Jésus fustige. Premièrement, une lecture cérébrale seule ne permettra pas de connaître le point central de tout l'ouvrage et la raison même de son existence, savoir la croix de Christ. Car le seul moyen de connaître dans nos cœurs, nos âmes, et comprendre à quel point nous avons besoin de la croix dans tous les compartiments de notre vie, c'est Christ lui-même, par la relation qu'il veut établir personnellement avec nous. Si nous lisons une, même voire toutes les biographies de notre star préférée, quelle qu'elle soit, mais que nous n'avons jamais l'occasion de la rencontrer, de passer du temps avec elle, pensez-vous que nous la connaîtrons réellement? Non. Nous n'aurons d'elle que ce que les auteurs des livres nous ont dit. Et même s'il est vrai que Dieu est lui-même l'auteur de la Bible, par le fait que Jésus est la parole lui-même, pour justement le connaître, nous avons besoin d'entrer en relation avec lui, de passer du temps avec lui. Oui, mais comment ? Par la prière, qui nous met par l'esprit de vérité que Christ nous a envoyé en relation avec lui-même et nous emmène au pied du trône de notre Père éternel. Jean 16, verset 13. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Hugues Édouard Alexander, dans son livre « Manne du matin », fait ce commentaire. « Le défenseur est venu, il est à côté de nous, il aimerait diriger notre cœur vers l'amour de Dieu, nous donner pleine communion avec lui, à l'image et suivant l'exemple du Fils. Il représente le Fils, il est envoyé au nom du Père, il vient de la source, et il glorifie ce qu'elle est. Sa mission est d'accomplir ce que le Père l'a chargé de faire et de révéler son Fils. Par conséquent, tout ce qui ne glorifie pas le Fils n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Un voile est enlevé et nous contemplons une révélation spécialement sacrée. Dans la sainte communion du Père avec le Fils, le Saint-Esprit a reçu ce qu'il est chargé de dire aux disciples. La Bible, Jésus, la prière et l'écoute, l'Esprit, sont comme un produit à deux composants, qui, une fois réunis, donnent la structure indispensable pour l'accès au Père, et ainsi réunir en nous le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Esprit, la Trinité, car celui qui a le Fils a le Père. La parole seule ne suffit pas, l'Esprit seul ne suffit pas pour connaître le Dieu trinitaire. Ils doivent être réunis en permanence pour atteindre le but, faire entrer Jésus dans nos cœurs, et ainsi devenir participant de la nature divine, rien moins que cela. C'est encore Alexander qui dit « Il n'existe pas pour nous de communion avec le Père et le Fils si nous ne lui donnons pas le temps nécessaire pour l'écouter et contempler sa gloire. » Et comme pour la lecture et l'étude, ça commence par l'individuel, mais aussi le communautaire est essentiel pour atteindre le but d'Éphésiens 4. Et cela nous amène au deuxième point. Nous avons lu avec attention, nous avons prié avec ferveur, et la parole de Jésus est entrée dans notre cœur. La parole est devenue vivante en nous, mais elle va maintenant devenir agissante. Et là encore, nous avons notre part pour atteindre la couronne. Prêcher, La prédication, c'est transmettre le texte biblique, la bonne nouvelle, la révélation qui était tenue cachée jusqu'au temps prévu par Dieu, à savoir la venue de son Fils Jésus-Christ pour la rédemption du péché, et ainsi rétablir la relation avec Dieu le Père. Et une prédication, pour atteindre son but, doit être une mise en pratique. En fait, le plus important ce matin, c'est cette simple mise en pratique qui revêt la plus haute importance, puisque c'est Jésus lui-même qui nous la donne à la fin de la prédication la plus percutante jamais entendue, savoir le sermon sur la montagne. Matthieu 7, verset 16. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme les spécialistes de la loi, leurs prédicateurs. Quand notre Bible devient Jésus, nous ne sommes pas enseignés par les spécialistes de la loi, mais par son autorité qui nous frappe. L'enseignement de la Bible, Jésus lui-même, eau vive et pain de vie, recherché dans la prière avec l'Esprit Saint, est d'autant plus vital à notre esprit pour vivre en enfants qui honorent et glorifient leur Père céleste atteindre la maturité d'Éphésiens 4, que la nourriture l'est à la survie de notre corps physique. Car il s'agit là de la vie dans sa seule réalité éternelle. La vie avec Dieu, sans cette vie de l'esprit, appelée Zoé, c'est la mort éternelle. Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Jésus dit dans Jean 6, verset 44, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit, et moi je le relèverai de la mort au dernier jour. Les prophètes ont écrit ceci, ils seront tous instruits par Dieu. » Quiconque écoute le Père et reçoit son enseignement vient à moi. Cela ne signifie pas que quelqu'un ait vu le Père. Seul celui qui est venu de Dieu a vu le Père. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit possède la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont pourtant morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain de vie le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. Malheureusement, nous sommes tellement souvent peu friands de cette nourriture qui est pourtant essentielle à la vraie vie, celle de l'esprit restauré à la croix que Christ vient déposer et développer en nous par cette communion avec lui. L'image de Jésus est très claire. Si nous en restons à la table des matières et qu'il n'entre pas vraiment dans nos cœurs par la communion de l'esprit, nous sommes fous, notre maison va s'effondrer et il nous dira qu'il ne nous connaît pas. Rappelons-nous que c'est lui-même qui a prononcé ces paroles. Pour conclure, c'est Jacques qui nous le rappelle au chapitre 1 et au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Nous cherchons la vision de nos vies personnelles. Nous cherchons une vision pour l'Église. Jésus et Esprit Saint réunis sont là devant nous. Allons-nous rester à la table des matières ? N'allons-nous pas nous emparer de ce trésor inestimable, préparé pour nous et révélé à la croix, et le laisser entrer en nous ? Il faut être fou pour passer à côté de ce trésor sans comparaison. J'essaye de lire toute la Bible, si possible dans une année. Je l'ai fait l'année passée et le Nouveau Testament plusieurs fois. Mais pourtant, j'ai l'impression bien souvent d'oublier ce que j'ai vu dans le miroir et d'être ce fou dont Jésus parle. Et pardonnez-moi, mais j'ai l'impression de ne pas être seul, ce qui, malgré l'expression populaire, plus on est de fou, plus on rit, vous connaissez, ne me fait pas rire, mais me rend triste. Le plan est parfait. Tout est accompli. Nous avons tout pour atteindre la stature parfaite de Christ et beaucoup en restent encore à la table des matières, se contentant d'écouter les conteurs alors qu'ils ont accès au personnage principal. D'autres, après avoir regardé dans le miroir, oublient ce qu'ils ont vu et entendu et ne progressent pas non plus vers cette maturité qui pourtant me semble être la vision que Dieu nous donne, parvenir tous ensemble à la stature parfaite de Christ. De quoi Jacques parle-t-il par l'image du miroir ? Que voyons-nous dans ce miroir ? Ce que nous voyons, c'est la parole, Christ et son image, et immédiatement, nous voyons que notre propre reflet ne correspond pas à celui à l'image duquel pourtant nous avons été créés. Et alors deux choix sont possibles. Nous pouvons faire ce que beaucoup font quand le reflet leur déplaît, ne plus le regarder, s'en détourner, en préférant se leurrer par un masque que l'on dessine dans nos âmes mêmes de l'image que l'on se convainc d'être, allant même jusqu'à chercher ce leurre dans le miroir au travers du masque. Ou alors, On prend conscience de l'immense différence avec l'image de celui auquel on désire ressembler de tout notre cœur. Et avec humilité, mais certitude, on prend conscience qu'il peut et veut nous transformer en cette image, et cela par l'œuvre de la croix. Car lors de notre résurrection avec lui, il a déposé à nouveau en nous cette image perdue à la chute. Et c'est en passant chaque jour, chaque parcelle de notre image au crible de la croix, qu'il nous transforme de gloire en gloire, toujours plus à son image. Et contrairement au miroir de la salle de bain, où nous voyons jour après jour notre image se dégrader, dans le miroir de la parole, nous la voyons jour après jour se restaurer. 2 Corinthiens 3, 17 et 18. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Puisse notre Seigneur nous aider par la puissance de l'Esprit à plonger nos regards dans le miroir par la nourriture de la Bible et dans la profondeur insondable de son cœur par la prière. Car l'Esprit connaît la profondeur de son cœur et nous la révèle quand nous la recherchons avec ferveur. J'ai fait un rêve. Mon ami qui a mis ça dans son site sur le Jean Daniel, au Marx, le collège Martin Luther King, ils ont l'origine du collège, c'est « J'ai fait un rêve » en reprenant Martin Luther King. J'ai fait un rêve. On arrêtait de chercher tout un tas de recettes pour la marche de l'Église. On arrêtait de débattre sur des sujets super importants. On arrêtait de regarder l'image des autres dans le miroir pour éviter de regarder la nôtre. Mais on regarderait les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Et tous ensemble, on plongerait nos yeux et nos esprits dans le miroir. On lirait nos Bibles avec l'esprit de vie par la prière. On prierait également ensemble les uns pour les autres. Et tous ensemble, grâce aux dons que le Seigneur nous a déjà donnés pour l'édification du corps, on s'exhorterait, se supporterait justement pour s'édifier les uns les autres. Et tous ensemble, on tendrait vers la couronne, parvenir à la stature parfaite de Christ. Philippiens 2, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En fait, je crois que ce n'est pas un rêve, mais la volonté parfaite de notre Dieu saint, juste et amour, notre pain de vie. Il nous dit en Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Partagez cette parole certaine. Regardez dans le miroir et ne pas oublier ce qu'on a vu dans le miroir. C'était la raison de notre présence ici ce matin. Prions. C'est Von Haussmann qui dit « Saisis ma main craintive et conduis-moi. Fais que toujours je vive plus près de toi. Sans toi, mon tendre Père, pour me guider, je ne sais sur la terre comment marcher. » Oui, Père, je veux te prier ce matin. Nous voulons te prier ce matin pour que tous ceux qui encore sont restés à la table des matières, Seigneur, s'emparent de ta parole. Tu es la parole, tu as été faite chair. Et Seigneur, nous te prions que par ta grâce, par ton esprit, tu pénètres dans leur cœur, Seigneur, et que ta parole devienne réalité de vie, que ta parole devienne vivante. Seigneur, je te prie aussi pour toutes les fois où, comme le Fils prodigue, je m'éloigne de cette parole, je m'éloigne de mon Père. Seigneur, je te prie que, avec tous ceux qui, comme moi, sont par moments, n'ont pas l'appétit pour lire ta parole, pour se nourrir de ta parole, toi qui es le pain de vie, Seigneur, que tu nous régénères, Seigneur, que tu renouvelles nos cœurs, que tu renouvelles nos pensées. Oui, Seigneur, je te prie que tu fasses de nous des sages, que nous puissions nous appuyer sur ta parole, que nous puissions vraiment en faire une nourriture que nous apprécions, Seigneur, une nourriture que nous désirions, et que nous nous emparions de cette nourriture chaque fois que nous en avons l'occasion. Que tu nous aides aussi à mettre le temps nécessaire de côté, Seigneur, pour prendre cette nourriture, pour rentrer en ta présence, et pour que réellement tu vives dans nos cœurs. Seigneur, je te prie encore que tu nous donnes aussi à tous, et particulièrement à moi, de ne pas oublier ce que j'ai vu dans le miroir. Seigneur, aide-nous, aide-moi, après avoir entendu ta parole, à la mettre en œuvre, à la mettre en pratique, à la rendre agissante dans ma vie, Seigneur, dans notre vie, afin que ton nom soit sanctifié et que ton nom soit glorifié dans nos vies à chacun et dans notre communauté, Seigneur. Par ton nom précieux de Jésus, nous te prions pour toutes ces choses. Amen. Je vais inviter Mathieu et Ouli à s'approcher pour distribuer la scène. Je veux simplement relire ce verset. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. » Je la donne afin que le monde vive. Ce pain et ce vin que nous allons partager, ce repas que Jésus a institué juste avant d'être crucifié, nous les prenons comme des symboles, mais nous avons vu ce matin que Jésus est réellement le pain de vie. Et ce pain que nous prenons nous rappelle que Jésus veut nous nourrir de sa vie en nous. Et ce vin nous rappelle, ce jus de raisin nous rappelle que son sang a coulé sur cette croix. Et encore une fois, ce symbole que nous prenons nous rappelle que ce sang a réellement coulé et qu'il coule en nous aujourd'hui quand nous l'avons accepté. Et nous partageons ce repas quand nous l'avons compris, que ce sont des sources d'eau vive qui coulent en nous. Jésus est notre pain de vie et notre source d'eau vive. Et nous voulons partager ce pain et ce vin, ce jus de raisin, en nous rappelant que Jésus veut entrer dans nos cœurs, qu'il est là à la porte, et que nous tous ceux qui l'avons laissé entrer, nous voulons le laisser vivre en nous, nous voulons le rendre vivant en nous, et nous voulons lui demander de mettre en œuvre la parole vivante dans nos vies.
Merci Seigneur Jésus que tu es venu sur cette terre pour nous sauver, pour mourir à notre place. Et merci que tu nous as donné ce symbole, cette Pâque nous rappelle de ton œuvre. Merci. Amen.
Seigneur, on l'a dit ce matin, on est en train de faire la fête. Il y a une table qui est dressée et on partage un repas, Seigneur, en ton nom. Et on ne mérite pas d'être à cette table, mais tu nous y as quand même invités, acceptés. Quand je me regarde le matin, Seigneur, je vois un homme qui n'arrête pas de tomber, de se tromper de direction, un homme qui te fait du tort. Et pourtant, toi, tu me vois avec le filtre de Jésus mort sur la croix pour nous. Et je veux vraiment te dire merci parce que, malgré que je ne le mérite pas, malgré que je t'aime d'un amour imparfait, une fois oui, une fois non, une fois mal. Toi, Seigneur, tu m'aimes d'un amour constant. Et merci parce que t'es mort sur cette croix, ton sang, il a coulé, et ce matin, on veut le dire, on veut s'en rappeler, on veut boire cette coupe pour se souvenir de tout cet amour qui a coulé sur la croix pour nous. Merci pour ton amour infini. Amen.
Bonjour, je vous invite à partager les annonces du programme de la semaine. Mardi prochain à 14h30, l'étude biblique pour les aînés. Et dimanche prochain, le culte. Et c'est tout pour cette semaine. La semaine d'après, mardi 5, on a la cellule de Pref 5 qui va se réunir, mais ce sera une cellule partagée. C'est-à-dire que c'est la cellule de Pref 5 qui se réunit, mais tout le monde est invité. Il n'y aura pas d'autres cellules ce même soir. Et donc, c'est l'occasion de visiter les autres cellules, de voir aussi ce que les autres vivent dans les autres cellules. Ensuite, dans les semaines qui vont suivre, il y aura ensuite donc les cellules de Collonges, Farges, Perron et puis Gex qui se réuniront aussi et qui seront aussi partagées. Je vous rappelle le culte à la Lècherolle, c'est pas tout de suite, c'est dans 4 semaines, mais le 24 août, il n'y aura pas de culte ici. Donc c'est important de bien y penser pour ne pas venir se retrouver devant une porte fermée. Le week-end au Col des Mosses, je le rappelle aussi, c'est un petit peu en avance, mais c'est à la mi-septembre, les 13 et 14 septembre. Voilà, sinon je vous invite à vous lever pour vous lire encore 2 versets dans Psaume 40. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. Moi je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.